Il est midi sur Europe 1.
Ils font un travail extrêmement important et justifient de ce point de vue l'intervention de l'État.
1000 euros de primes pour les fonctionnaires pour leur dévouement face au Covid-19. 400 000 agents en dehors des soignants. Gérald Darmanin a choisi Europe 1 pour l'annoncer ce matin. Toutes les explications dès le début de ce journal.
Le professeur Raoult estime avoir éradiqué le coronavirus de Marseille. Il revient avec 76 000 tests déjà faits depuis le début et un taux de mortalité extrêmement bas. Emmanuel Macron veut que la thérapie du professeur Raoult soit testée.
Je suis convaincu que c'est un grand scientifique et je suis passionné par ce qu'il dit. C'est une bithérapie que propose le professeur Raoult. Il faut qu'elle soit testée.
Nous inviterons le professeur Patrick Berche pour faire le point là-dessus.
Les écoles le 11 mai, pas question, disent certains parents qui veulent garder les enfants à la maison. Une nouvelle étude montrerait en revanche que les petits ne seraient pas plus porteurs du virus, contrairement à ce que l'on pensait au début.
Les respirateurs, on en manque dans les services d'urgence. PSA en construit, nous irons dans l'atelier avec son responsable Franck Guérin. Dans ce journal également, la tribune verte de Pascal Canfin dans Le Monde. Alors qu'Emmanuel Macron veut revoir la politique de l'empreinte carbone, le président de la commission environnement du Parlement européen sera avec nous tout à l'heure, notez-le bien, à midi et demi. Les habitants de la région des Calanques transforment le parc naturel en décharge. Coup de gueule dans ce journal de Didier Réaud, le président du site.
Notre-Dame de Paris, souvenez-vous, il y a un an, la cathédrale brûlait devant nous, nous étions impuissants.
J'ai vu la flèche carrément basculer vers les tours, comme ça, boum.
Et le Tour de France alors, fin août, décision prévue, aujourd'hui nous suivrons ça en détail. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Pierre, bonjour Elisabeth et bonjour à tous.
Bonjour Anissa.
La météo avec vous et la pluie qui arrive par le sud-ouest.
Oui, effectivement Pierre, après la très belle matinée aujourd'hui sur l'ensemble du pays, et bien cet après-midi, l'instabilité va arriver par le sud-ouest avec de la pluie et même des orages. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Merci Anissa, rendez-vous juste avant 13h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc une annonce forte de l'exécutif, une prime exceptionnelle de 1000 euros pour les agents de la fonction publique.
Oui, pour leur action devant le Covid-19, annonce faite par Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, c'était ce matin sur Europe 1.
Ils font un travail extrêmement important et ils montrent que l'État est présent et protège les plus faibles et justifie de ce point de vue l'intervention de l'État. Cette prime, elle est décidée par le président de la République en parallèle des salariés qui travaillent par exemple. C'est une prime qui sera défiscalisée, on ne payera pas de cotisation sociale lorsqu'on la touchera, jusqu'à 1000 euros. Et par ailleurs, nous prenons à la demande du Premier ministre des décrets qui nous permettent effectivement, pour la fonction publique hospitalière, je pense que c'est le ministre de la Santé qui le dira, pour la fonction publique d'État, c'est un peu plus de 300 millions d'euros qui est prévu pour la versement de cette prime. Et pour la fonction publique territoriale, on va laisser la possibilité au maire de verser, s'il le souhaite, et je sais que beaucoup le souhaitent, cette prime qui sera aussi déchargée des cotisations pour les collectivités locales.
Gérald Darmanin qui répondait aux questions de Sonia Mabrouk, Emmanuel Dutheil, on est bien d'accord, c'est une mesure rarissime.
Oui, c'est sûr que c'est rarissime. Alors, les agents concernés sont ceux qui ont eu un surcroît d'activité important avec le confinement. On ne parle pas des soignants qui vont bénéficier d'un plan spécifique, on vient de l'entendre avec le ministre. Cette prime sera donc versée, par exemple, aux enseignants qui gardent les enfants des soignants, aux douaniers qui font des opérations de contrôle, aux surveillants pénitentiaires. Un fonctionnaire de la fonction publique d'État sur 5 devrait recevoir cette prime. Ça fait environ 400 000 personnes. Elle sera versée aussi bien à ceux qui sont sur le terrain, comme les douaniers, qu'à ceux qui sont en télétravail. Pour la fonction publique territoriale, c'est le même dispositif qui sera mis en place. Mais là, ce sont les employeurs territoriaux, comme les maires, qui vont décider. L'idée, c'est comme dans le privé, de récompenser tous ceux qui font tourner le pays.
Autre annonce, Emmanuel, on va bien vers une annulation de charges pour les secteurs durement touchés par la crise.
Oui, jusque-là, l'État autorise les entreprises en difficulté à reporter des paiements de charges. Et elles sont nombreuses à s'être emparées de cette mesure. 12 milliards d'euros de charges ont ainsi été décalés pour le moment. Mais voilà, quand vous êtes un restaurateur, un hôtelier ou que vous travaillez dans le domaine culturel, décaler les charges, ce n'est pas suffisant. Leur activité va mettre un temps fou à repartir. Du coup, l'État travaille bel et bien à l'annulation pure et simple des charges dues. Hein, Gérald Darmanin l'a confirmé ce matin sur Europe 1. Ça représente une enveloppe pour le moment de 750 millions d'euros. C'est une mesure d'urgence et c'est un des éléments du plan de soutien à ces secteurs annoncé lundi soir par le président de la République.
Merci de toutes ces précisions. Emmanuel Dutheil.
Et en parlant d'aide financière, il y a aussi ce qu'a évoqué Emmanuel Macron pour les étudiants en grande précarité.
Isolés dans des résidences universitaires loin de leur famille, avec des loyers à payer et avec des loyers à payer, des disparitions de petits boulots, plus aucun resto U pour se nourrir. Avec ce confinement, Jessica, étudiante boursière en master de droit à Bordeaux, sombre dans les problèmes financiers.
Une fois que j'ai payé tout simplement mon loyer, concrètement, il me reste 20 euros. Au niveau de la nourriture, je ne mange que du riz et des pâtes qui me sont livrées par la banque alimentaire au travers d'associations. En général, je ne fais qu'un seul repas par jour. Et là, d'avoir une annonce qui nous dit que ça va être encore prolongé de 28 jours, pour moi, c'est impensable. J'étais à deux doigts de pleurer parce que je ne sais pas si je vais pouvoir tenir jusque-là ou s'il va falloir que je mange plus qu'un jour sur deux. On se retrouve vraiment seul dans cette situation, se demandant comment je vais faire demain. Mes appels au secours ne répondent pas.
Voilà, cette étudiante en détresse interrogée par Romain Oquet.
Et nous y reviendrons en détail dans La France Bouge à partir de 13h. Nous découvrirons des initiatives mises en place pour accompagner les étudiants en ce moment de confinement.
Autre information ce matin, Elisabeth, nous avons des nouvelles du professeur Raoult.
Et oui, l'infectiologue de l'IHU de Marseille revient dans une des vidéos dont il a l'habitude, avec au total 76 000 tests depuis le début de l'épidémie.
Et le chantre de l'hydroxychloroquine revient avec des résultats qu'il juge très très encourageants, Nathalie.
Oui, chiffre à l'appui, le professeur Raoult, comme à son habitude, communique par le biais d'une vidéo dans laquelle il explique qu'au plus fort de l'épidémie, il y a eu jusqu'à 368 nouveaux cas par jour diagnostiqués à l'IHU, alors qu'aujourd'hui, ce chiffre est tombé à moins de 80 par jour. Alors on observe quand même qu'il y a en ce moment moins de candidats au dépistage, on ne voit plus ces longues files d'attente, mais pour le professeur Raoult, le protocole qu'il applique fonctionne, avec en prime une autre hypothèse liée à la saisonnalité.
Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Il est possible que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines, il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges et qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Donc c'est assez banal. Si on essaie de replacer ça dans le cadre des épidémies, des crises sanitaires, on est très loin actuellement, si on cumule, vous voyez, les mois de décembre à mars, de la crise sanitaire de 2017 où il y avait eu énormément de grippe H3N2.
Diagnostiqué, traité, isolé, martèle le professeur Raoult qui temporise. D'après lui, cette crise sanitaire n'a pas plus d'incidence sur la mortalité en France. Quant à l'association hydroxychloroquine-azithromycine, il souligne que c'est aujourd'hui le premier traitement délivré dans le monde pour vaincre le Covid-19.
Merci Nathalie Chevance.
Bonjour Patrick Berche.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes membre de l'Académie de médecine, chef du service virologie-bactériologie de l'hôpital Necker. Alors, on l'a entendu, le président de la République souhaite tester la thérapie de Didier Raoult. Il fait part de bons résultats. Et pourtant, vous, comme d'autres de vos confrères, vous restez sceptique.
Je reste sceptique surtout sur l'idée que l'épidémie va s'arrêter. Il faut rester vigilant. Actuellement, nous n'avons que 10% environ de la population française qui a été en contact avec le virus et qui est censée avoir été soit malade, soit immunisée. Et quant à la saisonnalité, elle se voit évidemment pour des virus respiratoires comme le virus de la grippe, mais il existe dans le cas du virus de la grippe une immunité de groupe très importante à cause de la vaccination et du fait que depuis des années on a été exposé au virus. J'ajouterais que dans la grippe espagnole, qui est le cas d'un virus nouveau se propageant dans une population totalement non immune, eh bien le virus a commencé en mars 1918 et il s'est prolongé pendant tout l'été sans saisonnalité. La saisonnalité est liée en grande partie à l'immunité de groupe.
Ouais. Donc vous écartez l'hypothèse de la saisonnalité qu'évoque Didier Raoult, qu'a évoqué aussi le président américain. Qu'est-ce qu'on risque concrètement à étendre les tests du professeur Raoult? Même lui écarte les patients à risque au niveau cardiaque, puisqu'on a parlé effectivement des gens qui prenaient du plaquenil parce qu'ils en avaient retrouvé dans les tiroirs et ils étaient à risque au niveau cardiaque.
C'est-à-dire que moi, ma position personnelle, c'est de dire qu'à partir du moment où on a une activité in vitro de l'hydroxychloroquine, on n'a pas d'autres traitements actuellement. Et donc, si les médecins veulent l'utiliser sous contrôle médical, bien entendu précis, et avec toutes les restrictions qu'il faut avoir pour les accidents cardiaques en particulier qui peuvent arriver, pourquoi pas? Mais nous n'avons aucune preuve actuellement que ce traitement soit efficace. Il faut attendre les résultats des essais cliniques qui sont en cours et pour dire si le traitement est efficace.
Donc c'est une question de temps, ce n'est pas une question d'efficacité du traitement. Là, c'est du temps que vous demandez.
Il faut établir scientifiquement l'efficacité. Pour le moment, ce sont des essais empiriques, que je ne critique pas, c'est des essais empiriques qui utilisent la chloroquine, l'hydroxychloroquine ajoutée à l'azithromycine pour tester, à utiliser au début de l'infection. Et donc, pourquoi pas
Et qui fonctionne, fonctionne pour l'instant.
Il faut le démontrer. Il faut le démontrer avec certitude.
Merci beaucoup, professeur Berche, d'avoir été avec nous dans Europe Midi. Merci pour vos explications. Les tests maintenant, notamment ce déploiement massif à grande échelle dans les EHPAD, c'est ce qu'a annoncé Elisabeth, le ministre de la Santé, Olivier Véran. Où en est-on ?
Les directeurs d'établissement n'ont toujours pas reçu le protocole officiel de mise en œuvre, mais ils ont pu se le procurer. Et ce qu'ils ont lu les a fait bondir. Tous les résidents ne seront pas testés, loin de là, c'est ça, Virginie Salmen ?
Non, il n'est pas prévu de tester 100% des résidents, mais seulement 3. Par exemple, dans les maisons de retraite dans lesquelles le virus a fait quelques victimes, mais où la situation est sous contrôle, ça voudrait dire qu'on a des cas groupés et on n'irait pas chercher plus loin, selon les représentants d'EHPAD, privés comme publics, qui ont pu consulter le protocole. Pas de dépistage généralisé non plus dans les établissements où la situation est critique. Pourtant, on a besoin de savoir notamment où sont les cas asymptomatiques, font valoir les dirigeants de maisons de retraite. Il est inconcevable pour eux de ne tester que 3 résidents. Alors, il y a des régions qui feront mieux que la doctrine nationale en testant à 100% comme l'Occitanie ou Provence-Alpes-Côte d'Azur et même l'Île-de-France qui démarre cette semaine ce chantier colossal et complexe. Faire entrer au fond du nez un écouvillon est une opération délicate pour des personnes âgées affaiblies ou avec des troubles cognitifs et très chronophage. On peut tester en moyenne 60 personnes par jour et par EHPAD.
Merci Virginie Salmen. Notons que 700 personnes, c'est-à-dire la moitié de l'équipage d'un paquebot, sont en ce moment au large de Saint-Nazaire et que pour l'instant il n'y a pas de risque inquiétant à bord. Il est midi 12.
Europe 1.
Une pause et dans un instant, direction l'atelier de PSA qui fabrique des respirateurs. Et les écoles, est-il prudent de remettre ses enfants à l'école le 11 mai ? On en parle dans un instant.
Europe 1, Pierre de Villeneau,
Elisabeth Assayag.
Ils l'avaient promis, ils sont au travail. Plusieurs grands groupes français se sont mis à fabriquer des respirateurs.
PSA, Air Liquide, Schneider Electric et Valeo, tous ensemble pour fabriquer ces fameux respirateurs. Nous avons de la chance puisque nous allons pénétrer dans l'atelier de PSA qui les réalise. Bonjour Franck Guérin.
Oui, bonjour.
Vous êtes le responsable de cet atelier situé dans les usines de Poissy, dans les Yvelines. Je comprends à l'oreille que vous vous êtes mis un peu à l'abri des machines pour avoir un peu plus de tranquillité. Nous sommes à la radio, on ne peut pas voir. Décrivez-nous ce qui se passe. Comment est-ce que vous procédez pour la construction de ces respirateurs ?
Donc effectivement, nous sommes mis un peu à l'écart pour pouvoir parler calmement. Donc ces respirateurs, nous les avons mis en place dans un atelier qui est découpé en trois sous-ensembles. Un premier sous-ensemble qui va préparer un ensemble de pièces avant, avec du collage, avec des collages, avec des opérations minutieuses. On va préparer ces pièces pour les livrer à une ligne de production derrière, qu'on a découpée en 8 lignes. En fait, on a 8 lignes de production derrière qui vont nous permettre d'assembler le corps de l'appareil, le corps complet de l'appareil. C'est une partie très minutieuse où on a des petites pièces, des petits joints toriques, des pièces en aluminium, des pièces en laiton avec des micro-trous sur ces pièces. Ce sont des pièces qu'on n'a pas du tout l'habitude de manipuler, donc cette partie-là est très importante. Et puis derrière, une dernière phase de contrôle où on va mettre l'appareil sous pression à 2 bars avec de l'air médicalisé pour contrôler, voir s'il n'y a pas de fuite. Et puis derrière, étalonner l'appareil et contrôler que l'appareil sort les bonnes valeurs après utilisation des différents boutons de réglage, les boutons que vont utiliser le corps médical.
Franck Guérin, comment faites-vous pour fabriquer des respirateurs avec des pièces de voiture ?
En fait, on ne prend pas de pièces de voiture, on a juste les salariés qui fabriquent les voitures. On s'est mis dans un atelier à part. On a donc créé, on a pris des
ça aurait pu, hein, dans l'imaginaire collectif, on aurait pu se dire qu'il y a des tuyaux, enfin je sais pas comment construire une voiture dans le détail, mais on aurait pu se dire que des durites ou des pièces automobiles auraient pu servir à ces respirateurs.
On a des tuyaux, on a tout ça, mais les pièces sont pas du tout communes. On parle de pièces de voiture qui sont beaucoup plus grosses. Dans un respirateur, les pièces sont très petites. On a des pièces qu'on prend et qu'on manipule avec une pince à épiler pour venir la mettre en place dans son logement. Vous voyez, ce sont des pièces complètement différentes.
C'est de l'horlogerie, là.
C'est de l'horlogerie fine. On fait attention à ce qu'on fait. On est là pour, un peu comme pour la voiture, hein, pour les clients. On est là pour faire des produits de qualité et surtout pour que... on puisse répondre à la demande du président Macron de faire nos 10 000 pièces d'ici le mi-mai. Quoi.
Donc, quel est l'apport de Valeo, de Schneider et d'Air Liquide ?
Donc Air Liquide nous a amené un peu toutes les préconisations, les tours de main, les façons de monter les pièces. Nous livre les pièces, Air Liquide nous livre les pièces, c'est elle qui a organisé l'arrivée des pièces qui sont spécifiques à ces respirateurs. Pour monter un respirateur, il faut environ 130 pièces.
D'accord. Et vous allez en produire combien là, la cadence, elle est réglée à combien ? Quand est-ce qu'on va les voir, ces respirateurs ?
Notre atelier est constitué de 95 personnes. Ces 95 personnes vont réaliser 300 respirateurs par jour, donc 300 parties mécaniques. Ici à Poissy, nous fabriquons la partie mécanique, nous assemblons la partie mécanique. Ouais. Donc nous allons en réaliser 300. Et nous sommes aussi en ordre de marche et nous avons déjà préparé un peu notre organisation d'atelier et notre effectif pour essayer d'en faire 400 par jour.
D'accord. 400 par jour et qu'on verra quand qui sortiront des chaînes.
Donc,
quand
400 par jour. Donc,
dès aujourd'hui
en ce moment, aujourd'hui, nous allons fabriquer 98. Nous avons assez de pièces pour fabriquer 98 ensembles de pièces, ensembles de respirateurs. Ces respirateurs vont partir après chez Air Liquide pour être de nouveau contrôlés et puis placés et assemblés avec la partie électronique. Une fois que l'ensemble sera terminé, ils vont le placer dans le boîtier spécifique qui va recevoir le boîtier de manipulation que le corps médical va utiliser. Ouais. Et puis ils vont le tester, ils vont le mettre en rodage pendant 4 heures. Avant de le distribuer et puis d'envoyer. Quoi. Donc tous les jours, 400 respirateurs. C'est une grosse marche, hein, puisque Air Liquide fabriquait environ 3500 respirateurs à l'année. Là, on va faire 10 000 respirateurs en 50 jours. Hein. Vous voyez, la marche est très grande.
Des respirateurs sur lesquels on va poser des chevrons ou des lions, un peu comme on veut, hein, puisqu'il y a plusieurs marques chez PSA. Merci en tout cas Franck Guérin pour cette visite guidée de l'atelier PSA qui fabrique donc dès aujourd'hui 98 respirateurs et 400 par jour dans les jours à venir. Merci beaucoup.
Les écoles maintenant, théoriquement, vous le savez, les enfants reprennent le chemin des classes le 11 mai. Mais certains parents sont sceptiques et d'autres carrément ne les remettront pas en cours. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Élise Dangean.
Aujourd'hui, moi je l'affirme, mes enfants n'iront pas à l'école le 11 mai.
François est formel, pas question de renvoyer ses deux filles de 4 et 12 ans à l'école où, selon lui, le respect des gestes barrières est tout simplement impossible.
La santé de mes enfants passe avant toute chose et donc je m'adapterai moi avec ma femme pour nous occuper de nos enfants, mais on continuera le cloisonnement avec eux à partir du 11 mai.
Un luxe que toutes les familles ne peuvent pas s'offrir, comme celle de Cindy, maman de deux collégiens. En parallèle de son travail, cette agricultrice doit gérer les devoirs, alors forcément, elle a hâte que l'école reprenne.
Nous, on n'a pas le temps et on n'a même pas la capacité, je pense, à leur expliquer les choses telles qu'elles sont expliquées à l'école. surtout que les méthodes ont changé. Et c'est sûr que dans des matières principales telles que le français ou les maths, ils vont avoir des lacunes à la rentrée. S'ils ne reprennent pas l'école, il y aura des lacunes.
Reste à savoir dans quelles conditions peut se faire le retour sur les bancs de l'école. Le ministre de l'Éducation nationale se donne 2 semaines pour préparer un plan de reprise progressif.
Et à propos d'enfants, souvenez-vous, dès le début de l'épidémie de Covid, les scientifiques avaient présenté les petits comme généralement asymptomatiques et surtout très propagateurs du virus. L'infectiologue Robert Cohen, à l'hôpital de Créteil, mène une étude en ce sens. Il n'est pas impossible qu'on ait eu tout faux.
Tout le monde était parti sur l'idée que les enfants étaient porteurs très très fréquemment du virus. Ils ne tombaient pas fréquemment malades, mais qu'ils pouvaient transmettre la maladie. Les premières données qu'on a ne vont pas dans ce sens-là. Elles vont plutôt avec des enfants qui sont peu porteurs du virus. Et pour vérifier tout ça, on lance une large étude dans la région parisienne comportant plusieurs centaines de patients pour savoir à un moment donné de l'épidémie quel est ce taux de portage. Parce que j'entends bien que ça inquiète beaucoup les gens de rouvrir l'école, mais comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, on a des éléments pour penser qu'il y a très peu de gens qui sont déjà protégés contre la maladie. Et je ne pense pas qu'attendre septembre, ça change dramatiquement le problème.
Est-ce que, pour le coup, on peut espérer des résultats probants avant cette date de début de réouverture des écoles, le 11 mai ?
Je ne sais pas si on terminera l'étude d'ici le 11 mai, mais on aura déjà énormément d'enfants inclus. Et comme c'est des résultats qui arrivent pratiquement en direct, puisque c'est des tests rapides qu'on utilise aussi bien par PCR que par sérologie, on pourrait avoir assez rapidement des résultats.
Le professeur Robert Cohen, interrogé sur Europe 1 ce matin par Mathieu Béliard.
Et au-delà des écoles, se pose encore un autre problème très important lui aussi, le confinement pour les personnes atteintes de maladies psychiatriques.
Oui, on en compte 420 000 en France hospitalisées à l'année et 2 millions qui restent chez elles en suivant des soins. Évidemment, le confinement, avec les contraintes que l'on sait, les consultations supprimées, remplacées par le téléphone, tout ça c'est très dur. Audrey est la mère d'un jeune de 27 ans dans ce cas bien précis. Elle est seule à le gérer et elle témoignait ce matin sur Europe 1.
C'est quelqu'un qui est souvent extrêmement anxieux. Et là, du coup, cette période anxiogène, ne pas pouvoir sortir comme il voulait, pas pouvoir aller courir comme il voulait, d'avoir des papiers sur soi, ce sont plein d'éléments qui étaient effectivement nouveaux pour lui et qui, du coup, l'ont pas mal perturbé. L'agressivité, et aussi, du coup, ce besoin de consommer, alcool surtout. Il a été suivi par un psychologue. Il a plusieurs fois fait appel à lui en lui disant « j'aimerais vous parler », mais la personne était certainement très très prise aussi. Hein. Donc non, il n'a pas eu la disponibilité qu'il aurait souhaité. Moi, je me suis retrouvée mais vraiment extrêmement désemparée parce que quand il n'est pas bien, il est très tendu, il est agressif. Sur la fin, là, j'ai beaucoup vécu recluse dans ma chambre, fermée à clé. La seule solution, c'était de m'enfermer. Du coup, il était devenu suicidaire. Donc j'ai été obligée de le faire hospitaliser. 2 fois, j'ai téléphoné la dernière fois en disant « bien, c'est un appel au secours. J'ai besoin que quelqu'un me rappelle pour me dire ce que je dois faire. » Et je n'ai pas été rappelée. Je me suis sentie très, très seule.
Voilà le témoignage d'Audrey, maman d'un jeune dans ce cas de 27 ans. Et devant ces cas, ce sont les policiers du RAID qui souvent sont appelés en cas extrême, des forcenés, qui se multiplient d'ailleurs récemment à Versailles, à Rennes, à Nouméa, à Toulouse, Salomé-le-Grand. Les négociateurs du RAID tombent aussi sur de nouveaux profils.
Oui, des familles dans lesquelles les différends dégénèrent de façon beaucoup plus aiguë, plus intense que d'habitude, mais aussi des profils dont la fragilité est exacerbée par la solitude. Certains s'en prennent violemment à leurs voisins, d'autres se mettent à lancer du mobilier depuis le 13e étage ou menacent de se jeter eux-mêmes dans le vide après être tombés dans une forme de paranoïa, observe Benoît, le commandant à la tête des négociateurs du RAID.
La thèse complotiste, elle est vraiment, vraiment ancrée dans les gens seuls auprès desquels on est amené à intervenir. Depuis le début du confinement, on a eu 5 cas, notamment un jeune homme qui vivait seul, qui passait son temps en fin de compte sur les réseaux sociaux, sur Internet, à examiner des thèses complotistes. Lui avait peur de la contamination et il menaçait de se suicider.
Mais le contexte change aussi le dialogue entre ces négociateurs et les forcenés.
Le confinement, quelque part, c'est une expérience commune, et à eux et à nous. Donc à partir du moment où le sujet va pouvoir glisser là-dessus, ça fera vraiment écho chez eux, quoi.
Et pour les prochaines semaines, le RAID redoute les conséquences des ruptures de traitement chez certains malades chroniques, puisque beaucoup de points de prise en charge habituels sont fermés.
Merci Salomé Legrand. Et à l'instant, l'agence France Presse a fait un nouveau comptage du coronavirus. Plus de 2 millions de cas de ce virus dans le monde. Midi 24.
Europe 1.
Une nouvelle nouvelle pause et dans un instant, la promesse d'Emmanuel Macron sur l'écologie. Pascal Canfin l'a entendu, le président de la commission environnement au Parlement européen est avec nous. Et puis, à 1h moins le quart, nous irons du côté des calanques transformées en décharges publiques. Didier Réau, le président du parc national, est comme nous tous, il est scandalisé. Et lui aussi, il sera avec nous en ligne.
Europe 1. Pierre de Villeneuve,
Elisabeth Assayag.
Ce lundi soir, vous étiez près de 37 millions à regarder le discours présidentiel.
Oui, et bien plus en comptant bien sûr les ondes d'Europe 1. Emmanuel Macron qui, en toute fin de discours, a annoncé vouloir changer certains paradigmes, notamment sur l'écologie.
Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier la sobriété carbone, la prévention, la résilience, qui seuls peuvent permettre de faire face aux crises à venir.
Pour ne surtout pas repartir comme avant, on l'a vu, l'économie à l'arrêt a certes un effet positif sur l'écologie, mais la relance économique peut inverser la courbe vers le désastre, Jean-Sébastien Soldaini.
Oui, il suffit de se baser sur la crise de 2008. L'économie a tourné au ralenti pendant un an et demi. Moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais l'année de la reprise 2010, à elle seule, a suffi pour effacer tout le bénéfice carbone. Et lorsque François Gémen, expert du GIEC, observe les plans de relance pharaoniques de certains États, il craint que ce soit une bouée de sauvetage pour les gros pollueurs.
Lorsque le Congrès américain a voté son plan de relance massive à hauteur de 2000 milliards de dollars, ce sont les compagnies pétrolières, aériennes et les croisiéristes qui ont vu leur cours de bourse s'envoler. La Chine envisage de construire plusieurs centaines de nouvelles centrales à charbon. Moi, la crainte que j'ai, c'est que ce plan ne serve surtout à relancer l'économie du passé plutôt que d'inventer l'économie du futur.
La relance doit être assortie de conditions pour limiter les rejets dans l'atmosphère. Sans ça, Valérie Laramée de Tannenberg, rédacteur en chef du journal de l'environnement, prédit un scénario loin des objectifs de l'accord de Paris.
On est bien parti, effectivement, aujourd'hui, pour réchauffer le climat de 3,5 à 4 degrés, c'est clair. On est vraiment à un moment charnière où on peut encore décider de changer de trajectoire. Mais ça, c'est un vrai choix de société.
Et un choix que le Parlement français ne semble pas vouloir assumer puisqu'il a rejeté un texte prônant la relance en faveur du climat.
On voit bien, Jean-Sébastien, que cette situation peut être l'occasion d'une prise de conscience.
Et pour ça, il faut éviter un piège. François Gémen, notre expert du GIEC, commence à entendre un discours qu'il considère comme dangereux.
Si l'on dit qu'il faudra appliquer au changement climatique les mêmes mesures que celles qu'on applique pour le coronavirus, je crois aussi que la population ne rejette toute mesure de lutte contre le changement climatique en disant « on a déjà donné pour le coronavirus ». On ne va pas en plus remettre une couche d'efforts pour le changement climatique.
Certains pays semblent même baisser les bras. La République tchèque et la Pologne demandent déjà l'abandon du Green Deal européen.
Jean-Sébastien Soldaini pour ces explications complètes. Merci. Bonjour Pascal Canfin.
Bonjour.
Président de la Commission environnement du Parlement européen, écologiste affirmé, vous avez été ministre, vous avez été à la tête du WWF. Vous publiez justement une tribune dans Le Monde sur l'appel à changer vous aussi de mentalité. C'est ça qui vous fait peur quand on entend justement le sujet de Jean-Sébastien, qu'on abandonne le Green Deal européen comme le veulent certains États membres?
Nous sommes face à un embranchement, c'est très clair. Soit on fait comme on a fait il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'on relance l'économie après, à l'époque, la crise financière, et on oublie la priorité écologique. Ouais. Rappelez-vous la phrase de Nicolas Sarkozy, pour la France, l'environnement, ça commence à bien faire. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on n'aura plus aucune chance, clairement, de lutter efficacement contre le dérèglement climatique, dont on sait très bien qu'il n'a pas disparu avec le Covid-19. Ou alors, on fait pour la première fois des plans de relance alignés avec les objectifs climatiques. Ça ne veut pas dire ne pas relancer l'économie, mais ça veut dire la relancer en la transformant. Par exemple, accélérer la transformation de l'isolation des bâtiments. Ça fait du travail pour les artisans, ça fait du travail pour le BTP, mais ça ne fait pas plus d'émissions de CO2, ça fait au contraire moins d'émissions de CO2. Par exemple, pour les voitures, secteur automobile, ça veut dire accélérer la transformation vers la mobilité électrique en investissant davantage dans les bornes de recharge, dans la construction en France et en Europe des technologies dont on a besoin. Ça fait aussi de l'investissement dans le secteur, mais ça fait de l'investissement utile. Et c'est ça que j'ai défendu et je défends au niveau européen avec 200 personnalités. Vous évoquiez la tribune que nous avons publiée hier. L'idée, c'est avec les entreprises, avec les syndicats, avec les ONG et de manière transpartisane, c'est ça aussi l'esprit de concorde qu'évoquait Emmanuel Macron, de manière transpartisane, de construire cette relance intelligente.
Vous aussi, Pascal Canfin, vous appelez à un contrat fiscal et social plus juste ?
Oui, je pense qu'une des leçons de la crise, et je crois que le président de la République en a sincèrement pris conscience s'il en était besoin, c'est que le système de valeurs sur ce qui est finalement indispensable et ce qui ne l'est pas, sur ce qui est utile et ce qui l'est moins, eh bien notre système de valeurs bouge. Alors je sais bien que l'idée est qu'il y aurait une sorte
c'est
de
subjectif.
Grand soir, un avant
c'est subjectif,
et un après.
Pascal Canfin. Ben oui, bien tout sûr, le monde peut dire ben, ça c'est prioritaire, ça non.
Absolument. Enfin, ça sera difficile de dire que le système de soins et de santé, que récompenser des soignants n'est pas prioritaire. Ça me semble assez objectivable.
Vous comprenez ce que je veux dire.
Bien sûr, je comprends, mais tout choix de société est un choix collectif qui peut être contesté. En revanche, il y a des évidences à la sortie de cette crise. Et parmi les évidences, il y a le fait qu'il faut, réinvestir dans le système de soins, c'est une évidence, mais aussi ne pas refaire, et je redis ce que je viens de dire parce que ça me semble essentiel, ne pas refaire l'erreur que nous avons commise il y a exactement 10 ans, au sortir de la crise financière de 2009, où nous avons relancé les économies dans la mauvaise direction. On n'a pas le droit de se planter une deuxième fois.
C'est ça que vous appelez ne pas recréer une économie ex nihilo dans votre tribune ?
Non, c'est-à-dire que ce qui est intéressant par rapport à il y a 10 ans, c'est que les technologies aujourd'hui pour accélérer la transition écologique comme élément de sortie de crise économique sont là. On sait faire des voitures électriques, on sait faire des panneaux solaires qui sont 7 fois moins chers qu'il y a 10 ans. On sait faire toutes les technologies, même l'hydrogène, le stockage, etc. Donc il n'y a plus de contraintes technologiques. On peut investir massivement d'une manière publique, faisant levier, on dit en économie, sur les investissements privés. Il ne s'agit pas de dire que tout doit être public, bien évidemment. Mais on voit bien que l'État stratège, l'État investisseur, doit se déployer pour nous aider à sortir intelligemment de la crise. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les entreprises. C'est pour ça, par exemple, que le patron de Renault a signé l'appel que j'ai initié hier au niveau européen, le patron d'Engie, et qu'on discute, par exemple, avec Volkswagen. L'enjeu n'est pas de transformer les secteurs qui sont les plus émetteurs. Et une question va se poser, très vite, je pense, c'est la question de la nationalisation de certaines compagnies aériennes, et en France, Air France KLM. Et la question, c'est quelle contrepartie y a-t-il ? Est-ce qu'il faut sauver une compagnie comme Air France, c'est évident, ouais. C'est systémique, c'est stratégique pour la France de disposer d'une compagnie nationale, ça va de soi. En revanche, au moment où on la sauve, est-ce qu'on dit ça repartira comme avant ou est-ce qu'on en profite pour avoir un contrat de transition écologique avec Air France ? Et moi, c'est ce que je plaide. Je plaide pour évidemment la sauver, mais la sauver avec un contrat de transition écologique pour sortir intelligemment, encore une fois, de la crise dans laquelle nous sommes.
Sachant qu'Air France a déjà emboîté le pas avec des avions beaucoup plus écologiques commandés dernièrement. Merci beaucoup, Pascal Canfin, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.
L'économie, on parlait d'une économie plus solidaire, plus responsable à l'instant avec Pascal Canfin. On ne sait pas si c'est un premier effet, mais certains grands groupes tirent déjà des leçons de l'épidémie.
Oui, comme Renault qui a décidé de ne plus vendre de voitures thermiques justement en Chine, because pas rentable. Bonjour Axel de Tarlé.
Bonjour Pierre.
C'est vous qui nous rapportiez cela ce matin dans la matinale d'Europe 1 et... C'est ce qui m'a, piqué l'oreille. Vous avez terminé votre chronique en disant que finalement l'Europe, qu'on disait libérale, a changé de doctrine. C'en est fini, vous disiez, de l'Europe conquérante avec notre CAC 40 à l'assaut du monde. Désormais, tous aux abris, bien protégés dans la forteresse Europe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Axel, qu'on va faire du protectionnisme ?
Mais effectivement, et ça m'a frappé quand j'ai vu hier que Renault renonçait à la Chine, enfin renonçait à vendre des voitures thermiques, des voitures normales, je me suis dit mais vraiment que le monde bougeait sous nos yeux, parce que je me souviens encore il y a 10 ou 15 ans, quand j'étais déjà journaliste économique et quand on voyait les grands patrons, mais ils vous parlaient tous de la Chine, de cet immense marché, et tout le monde, tous ces patrons disaient mais rendez-vous compte, ils sont 1,4 milliard, si on a quoi 2-3% de ce marché, mais on est les rois du pétrole. Et je m'aperçois aujourd'hui que tous ces grands patrons reviennent de la Chine très déçus. Vous savez, Carrefour a quitté la Chine en juin dernier. PSA divise par deux, enfin ferme deux usines définitivement. Et là, je vois Renault qui renonce. Et oui, ils reviennent tous en se disant finalement, ça n'était pas l'Eldorado qu'on imaginait parce que le marché chinois est fermé, assez protectionniste, etc. Et au contraire, vous avez raison, maintenant il y a même un... Alors on dit pas protectionniste parce que ça a mauvaise presse. On parle de souverainisme maintenant. Ça veut dire quoi être souverain? Oui, mais ça revient à la même chose. Ça veut dire qu'on va tous revenir dans la forteresse Europe. Pourquoi la forteresse Europe? Parce qu'on a tous peur que ces Chinois, qu'on croyait être une terre d'opportunité, à la faveur de cette crise, reviennent en Europe et rachètent nos entreprises. Et c'est pas une vue de l'esprit. Vous savez qu'en 2008, c'est ce qu'ils avaient commencé à faire. Souvenez-vous, après la crise grecque, ils ont racheté le port du Pirée, ils ont racheté la compagnie d'électricité du Portugal, ils ont racheté Volvo. Ouais. Ils ont pris 10% de Daimler-Benz.
C'est Mercedes,
et... Voilà, de Mercedes-Benz. Donc, et maintenant, la commissaire européenne Margrethe Vestager, qui était quand même le chantre du libéralisme, dans le Financial Times, la semaine dernière, elle vient de déclarer qu'il fallait que les États interviennent entre capital des fleurons européens pour éviter que les Chinois ne les rachètent à bas coût. Car rendez-vous compte que Renault, qui vient de quitter la Chine, Renault ne vaut plus en bourse après le Corona crack que 5 milliards d'euros. On est contre Renault il y a un an, avec Carlos, il y a un an ou deux avec
Carlos Ghosn. Mais Axel, est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on va pouvoir se regrouper, vivre en autarcie en Europe et faire du libre-échange avec les pays européens et basta?
Mais écoutez, il y a un peu un côté tous aux abris là. Il y a un peu, on ne veut pas devenir une colonie chinoise. On a vu que les Chinois se sont invités dans l'économie grecque. Ils commençaient à s'inviter avec la route de la soie là, qui était un mot bien gentil pour venir coloniser nos entreprises dans les entreprises italiennes. Et je crois qu'il y a une prise de conscience de ce que si on ne veut pas demain que non seulement nos babioles, mais nos entreprises soient sous capitaux chinois, il y a cette volonté, même les Allemands, hein, qui pourtant ont beaucoup d'intérêt en Chine, les Allemands veulent verrouiller le capital de leur entreprise pour éviter qu'elle se fasse racheter. Écoutez, je ne sais pas, mais il y a un côté mode survie. Et c'est curieux comme l'Europe qui était très colonialiste, alors on va dire très mondialiste, hein, mais au fond il y avait ce petit gène colonialiste, hein, et ben là, alors vous disiez protectionniste, on utilise le mot souverain, ça fait plus chic, mais il y a un côté retour à la maison, tous aux abris et créons la forteresse Europe. C'est une page qui tourne.
Merci pour cette page qui se tourne et de vos explications très claires. Merci Axel de Tarlé, on vous retrouve bien sûr tous les matins sur Europe 1. Juste une petite chose avant de partir en publicité. Nous avons Amazon qui à l'instant envisage de suspendre l'activité de ses centres en France après la décision du tribunal de Nanterre. Vous savez que le tribunal de Nanterre a refusé à Amazon de vendre la plupart de ses livraisons, en tout cas Amazon a été débouté. Du coup, Amazon ne s'était focalisé que sur les produits les plus importants, en tout cas les plus urgents. Et bien voilà, cette nouvelle d'Amazon qui envisage désormais de suspendre l'activité de ses centres en France après cette décision judiciaire. Restez avec nous, il est 12h38. Europe 1.
Encore une pause dans un instant. Le parc des Calanques transformé en déchetterie, hein, c'est inadmissible. Et puis en Picardie, un maire a décidé de couper l'éclairage public pendant la nuit.
Europe 1. Pierre de Villeneuve,
Elisabeth Assayag.
Direction la Picardie où pour encourager le confinement, on fait presque un couvre-feu, Pierre.
Oui, presque, mais c'est aussi une bonne initiative pour l'environnement. À Ham, le maire a décidé de couper l'éclairage public la nuit. Visiblement, Yann Gougelot, ça dissuade les habitants de sortir.
Et oui, effectivement. Il faut dire qu'à l'origine, pour empêcher les rassemblements de jeunes un peu désœuvrés ou les promenades de chiens un peu trop longues, Grégory Labille, le maire, avait songé à imposer un couvre-feu, mais il s'est rendu compte qu'il n'en avait pas vraiment les moyens.
Le couvre-feu, il faut pouvoir le faire respecter et les forces de l'ordre, je pense qu'elles sont déjà suffisamment mobilisées pour faire respecter le confinement dans la journée. Et donc, on a fait le choix de supprimer l'éclairage public.
Alors, résultat, depuis vendredi, la commune de 5000 habitants est plongée dans le noir. Une ambiance un peu angoissante qui donne beaucoup moins envie de sortir, reconnaît monsieur le maire. mais qui donne des résultats.
C'est vrai que quand il fait noir, il fait très noir. Et pour le coup, pour les personnes qui seraient amenées à sortir, pour une raison ou pour une autre, qu'ils évoquent un sentiment d'insécurité, je veux bien l'entendre. Mais pour tout dire, alors même qu'on a des caméras, il y avait des actes d'incivilité. Aujourd'hui, après un peu moins d'une semaine d'expérience, il semblerait que ça ne circule plus la nuit, quoi.
Et un millier de lampadaires éteints, même avec des ampoules LED, ça fait aussi des économies d'énergie.
À quoi sert d'éclairer une ville la nuit où il ne se passe rien? Et depuis qu'on a fermé totalement l'éclairage public, le ciel est beaucoup plus lumineux, on voit beaucoup davantage d'étoiles, c'est l'avantage.
D'ailleurs, Grégory Labille verrait bien cette suppression de l'éclairage public dans sa commune prolongée au-delà de la sortie du confinement.
Merci Lionel Gougelot. C'est l'heure de retrouver notre spécialiste santé. Bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Bonjour Mélanie.
Des questions pour vous au 3921 sur le hashtag Radio Ouverte. Mélodie a 28 ans, elle est asthmatique, mais bien équilibrée, dit-elle, par mon traitement de fond depuis des années. Dois-je néanmoins, Mélanie, me méfier particulièrement du coronavirus ?
Alors Mélodie, je dirais oui, hein, vous devez vous méfier du coronavirus, mais finalement je dirais comme tout le monde, puisque vous dites que votre asthme est équilibré depuis des années. Donc ça veut dire qu'a priori, vous n'êtes pas plus à risque d'être contaminé, en tout cas. En revanche, si vous deviez être contaminé, l'association Asthme et Allergie, qui regroupe des pneumologues, précise que les personnes asthmatiques auraient davantage de risques de développer des complications respiratoires en cas de contamination. Donc vraiment prudence. Et encore une chose, les pneumologues sont aussi assez inquiets, car des fake news circulent sur internet affirmant que les traitement inhalé par corticoïdes, que vous devez sûrement prendre, Mélodie, pour que votre asthme soit équilibré, provoquerait des formes graves de Covid-19. C'est faux, insistent ces médecins. Cela n'a pas été démontré. Conclusion, il est indispensable pour les patients asthmatiques de continuer à bien prendre leurs médicaments. D'ailleurs, les pneumologues expliquent qu'un bon contrôle de l'asthme et de ses symptômes limite les risques de présenter une poussée inflammatoire d'asthme en cas d'infection virale au coronavirus.
Mélanie, nous avons reçu la question de Jean-Pierre. Jean-Pierre, il a 52 ans et il vous demande, est-il vrai que prendre un bain très chaud, au-delà de 40 degrés, permet de se protéger de ce virus ?
Alors là, encore une fois, c'est faux. C'est vraiment une fake news qui circule beaucoup hein, depuis plusieurs semaines. Soi-disant, idée de génie de certains naturopathes très sérieux. Nous, soyons sérieux, pour le coup, c'est totalement faux.
Et même l'OMS à 60 degrés, ça ira mieux.
Voilà, c'est ça. Et même l'OMS a tenu à apporter des précisions sur ce point. Pour éviter de tomber malade, il ne suffit pas d'exposer le coronavirus à une source de chaleur afin de le tuer, ni en prenant un bain brûlant, ni en buvant d'ailleurs une tisane, ni même en vous exposant au soleil de longues heures. Certes, à ce stade, on estime que le virus n'est plus viable à partir de 60 degrés, 65 degrés pendant au moins 5 minutes. Mais quand vous prenez un bain, même s'il est très chaud, votre corps va rester grosso modo à 37 degrés. Donc ça sert absolument à rien, à part éventuellement à vous brûler, ça vous l'avez compris. Donc gardez bien en tête que pour vous protéger du coronavirus, le plus efficace, ce sont les gestes barrières. Donc vous pouvez prendre un bain si ça vous fait plaisir, si ça vous détend. Mais surtout, lavez-vous très régulièrement les mains.
Ouais, le bain façon homard, c'est déconseillé, Jean-Pierre. Et surtout, ça va pas permettre de désengorger les urgences comme on voudrait. Merci beaucoup, Mélanie. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h, puis bien sûr à 15h pour son rendez-vous.
Allez, direction dans le sud, le parc des Calanques qui est transformé, Pierre, en déchetterie.
Oui, à cause du confinement, là aussi, par effet d'aubaine, des dépôts sauvages de gravats, de déblais constatés dans ce parc national entre Marseille et Cassis, résidus de travaux abandonnés de manière sauvage et en temps normal, qui ont parfois lieu en temps normal, mais qui s'accélèrent bien sûr ces dernières semaines, Elisabeth.
Oui, et bonjour Didier Réo.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes en direct. Merci d'être avec nous.
Merci
on a du mal à imaginer le parc des Calanques transformé, là en ce moment, depuis le début du confinement, en déchetterie.
Alors, il ne faut pas exagérer non plus, il n'est pas transformé en déchetterie, mais c'est vrai qu'on voit une recrudescence de dépôts sauvages, que ce soit de la part de professionnels, d'artisans ou bien de particuliers qui viennent là déposer le résultat de leurs travaux ou de leurs travaux de terrassement. C'est dommage.
Mais donc, ce ne sont pas des ordures ménagères, ce sont surtout vraiment des gravats, des choses comme ça.
Oui, c'est principalement des gravats et des déblais aussi de terrassement. On a un site où il y a eu 30 à 40 mètres cubes de déblais de terrassement qui sont l'œuvre là d'un professionnel et qui est venu nuitamment déposer ces gravats.
Ah donc on vient de nuit, c'est des opérations commando de gens qui font des travaux dans des maisons et qui arrivent dans le parc des Calanques pour tout balancer.
Oui, alors vu le volume, je pense plutôt que c'est un professionnel a dû oublier volontairement d'aller à la déchetterie qui est ouverte à Marseille. Il y en a une pour les professionnels parce que ça l'arrange. Et souvent dans ce cas-là, d'ailleurs, il facture à son client la mise en déchetterie. Donc il gagne sur les deux tableaux et il fait perdre bien sûr la nature dans ce cas-là. Pour les autres, c'est plutôt des petits travaux avec des placos plates, des huisseries, enfin tout ce qu'on peut faire dans la maison, et que là on s'est délesté tranquillement pour pas avoir le stocké chez soi. Bon, ça arrive régulièrement dans les calanques, mais pas à ce niveau-là et pas de façon aussi organisée, si je puis dire.
Vous, Didier Réau, en tant que président du Parc national des Calanques, est-ce que vous avez fait appel aux autorités pour essayer de changer les choses?
Il y a eu un constat à chaque dépôt qu'on a pu repérer par soit les agents du Parc national des Calanques qui sont présents, certes en nombre limité, mais ils sont présents, ou les agents des propriétaires terriens que sont l'ONF, le département, la ville de Marseille. Et tous ces signalements, tous ces faits ont été signalés au procureur de la République, avec qui nous avons un travail très, très, très ancien. Ça a été le cas sur le braconnage, c'est aussi le cas sur les déchets, et une enquête est ouverte aujourd'hui. On a des éléments qui concordent et qui vont servir à l'enquête, et j'espère bien retrouver les auteurs de ces méfaits.
Et qui pourront peut-être identifier les auteurs. Merci beaucoup Didier Réau, président du Parc des Calanques, merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Le Tour de France va-t-il être reporté de 2 mois après les annonces du président de la République lundi, précisant que les grands événements ne pourraient pas se tenir avant la mi-juillet? Le journal Le Dauphiné a annoncé hier soir que la grande boucle devant initialement s'élancer de Nice le 27 juin partirait finalement le 29 août de Nice.
Oui, et on devrait en savoir plus cet après-midi de la part de l'organisateur ASO. En attendant, eh bien, déplacer les dates d'un événement comme le Tour de France, c'est bien sûr un sacré défi, Axel May.
Une fois les garanties sanitaires acquises, Christian Prudhomme, le directeur du Tour, s'est assuré de la faisabilité du report auprès des villes-étapes. Comme avec la station de Méribel, où était programmée mi-juillet l'une des arrivées au sommet les plus difficiles du parcours 2020, de nouvelles dates ne posent pas de soucis au maire, Thierry Monin.
Évidemment que nous sommes prêts à l'accueillir, c'est la réponse que j'ai faite à Christian Prudhomme. Et non, nous n'aurons pas de difficultés pour organiser cette épreuve du Tour de France.
L'accord des villes-étapes reçu, il faut aussi faire de nouvelles réservations de chambres pour les équipes et pour les membres de l'organisation, ce qui représente sur l'ensemble du Tour des dizaines de milliers de nuitées. À Nice, qui devait recevoir le grand départ le 27 juin, le président de la Fédération de l'hôtellerie du tourisme, Denis Cipollini, assure que la place ne manquera pas.
La capacité hôtelière de la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est un peu plus de 31 000 lits. Vu la situation qui est la nôtre aujourd'hui, j'aimerais avoir à me poser la problématique de savoir comment faire pour loger tous les gens qui vont arriver au mois d'août. Franchement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Conscient de l'impact économique, cet hôtelier niçois ajoute « Il faut impérativement qu'on puisse recevoir le Tour de France ».
Axel May, il est midi 48.
Europe 1.
Encore une pause et dans un instant, Notre-Dame de Paris, un an après.
Europe 1. Pierre de Villeneuve. Elisabeth Assayag.
C'était il y a un an, jour pour jour, la cathédrale Notre-Dame de Paris brûlait sous les yeux du monde entier.
Et Europe 1 s'était mobilisé pour vous faire vivre ce terrible incendie qui a duré plus de 24 heures. Extrait regroupé par Jeanne Bergaoui.
On est arrivé à 18h40. Les sirènes commençaient déjà à retentir à l'intérieur.
Il y a des morceaux de briques qui sont tombés à terre.
On a même des projections de morceaux de cendres qui tombent sur nous.
Durant les premières minutes, c'est la panique. Quelques policiers tentent de contenir les milliers de passants. Reculez qui envahissent la route.
J'ai vu la flèche carrément basculer vers les tours, comme ça. Boum.
Vous écoutez Europe 1, il est 22h.
Notre-Dame de Paris continue à brûler, ça fait plus de 3 heures maintenant.
Oui, les pompiers continuent d'arroser avec leur lance à eau, un feu qui éclaire la nuit.
Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire. Cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble.
C'est juste épouvantable, donc c'est pour ça qu'on chante tous en ce moment.
C'est terrible. Désolé.
J'ai pu rentrer au port de la cathédrale. Il y avait dans le fond cette grande croix jaune, non pas parce qu'elle était allumée, mais parce qu'il y avait des flammes autour.
Le jour se lève, elle est éventrée à ciel ouvert, dépourvue de sa charpente de 900 ans. Gauthier Capuçon en direct face à Notre-Dame.
C'est douloureux de voir le lieu qui disparaît et sera reconstruit, peut-être plus beau. Je sais qu'on ne pourra pas y rentrer avant un bon moment, mais je la vois toujours belle, elle sera toujours belle, Notre-Dame.
Capuçon sur le quai qui faisait face à Notre-Dame de Paris. Nous avons Ces images en mémoire,
tous, hein,
c'était
Pierre.
La matinale d'Europe 1. L'émotion nous gagne encore aujourd'hui. Bonjour, oui, André Finot.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la communication de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un an après, où en est-on ? J'imagine que les travaux sont à l'arrêt.
Les travaux sont à l'arrêt depuis le début du confinement. Malheureusement, on s'apprêtait à descendre l'échafaudage qu'on voit depuis un an et qu'on espère descendre depuis un an. Voilà, on est dans l'attente.
L'évêque auxiliaire de Paris, Monseigneur Jachier, qui était notre invité vendredi dernier pour Vendredi Saint, nous disait qu'il y avait une urgence quand même, c'était de démonter le grand échafaudage.
C'est cet échafaudage dont je vous parlais il y a quelques secondes, en fait, qui pose problème. Alors, bien évidemment, tout a été fait pour le ceinturer. Les ouvriers se sont mis au travail assez rapidement. Cet échafaudage est aujourd'hui ceinturé par deux techniques différentes. Il y a eu un échafaudage qui a doublé l'échafaudage précédent. Et puis, il y a eu des grosses poutres métalliques qui ont été mises sur trois niveaux pour le cercler également. Donc, cet échafaudage ne bouge plus aujourd'hui. Et on pourra dire que Notre-Dame est sauvée une bonne fois pour toutes le jour où cet échafaudage sera descendu.
Malgré le coronavirus, hein, le président de la République souhaite en maintenir l'objectif de la reconstruction de Notre-Dame en 5 ans. Vous pensez que c'est réalisable, que c'est possible ?
Oui, le général Georges Lain, qui est le président de l'établissement public pour la restauration de Notre-Dame, maintient cet objectif. Le président de la République, ce matin, dans une vidéo qu'il a adressée notamment aux compagnons qui sont tous les jours sur le chantier, l'a réaffirmé. C'est un objectif tenable. Vous savez, les architectes sont au travail, à distance. Ils ont des diagnostics à effectuer. Les ouvriers travaillent également à distance. Il y a beaucoup de mobilisation.
Mais à distance, comment est-ce possible à distance en ce moment ?
Vous savez, il y a des entreprises qui doivent faire des modélisations en 3D, notamment de différents éléments. Il y a plusieurs scénarios qu'il faut proposer. C'est à l'établissement public de choisir, et à l'architecte en chef, bien évidemment, de choisir les meilleurs scénarios pour protéger cette cathédrale. Donc, tout le monde travaille. Et les ouvriers, les compagnons avec lesquels je suis en contact assez fréquemment, eux n'attendent qu'une seule chose, bien évidemment, c'est revenir sur le chantier et de mettre les bouchées doubles pour tenir ce délai de 5 ans.
Est-ce que vous avez suffisamment d'argent ? On sait que les récoltes, que les collectes ont été énormes, gigantesques.
Abondantes, oui.
On ne sait pas encore. Il faut vraiment attendre cette période de diagnostic. Il faut que l'architecte en chef, les architectes en chef, puissent descendre, en fait, inspecter les voûtes. C'est le vrai questionnement, en fait, de cet ensemble. C'est savoir si les voûtes ont été si touchées que ça. Donc, ils doivent descendre, en fait, en rappel et aller voir si les voûtes de la nef, du chœur, tiennent encore ou s'il y a besoin de les restaurer entièrement. Une fois que ce diagnostic sera fait, on saura exactement combien d'argent seront nécessaires et on pourra enfin dire s'il y a suffisamment d'argent ou pas pour restaurer la cathédrale.
Monsieur Finot, aujourd'hui le bourdon de Notre-Dame doit retentir, c'est ça, en signe de symbole ?
Tout à fait, le bourdon de Notre-Dame va sonner un an après et va s'associer, puisque le bourdon va retentir à 20h ce soir, il va s'associer en fait à l'hommage rendu chaque soir aux soignants et à tous les gens qui nous permettent de continuer de vivre. On est tous confinés chez nous et c'est vrai que tous ces gens soit nous sauvent la vie, soit nous permettent de continuer à faire nos courses et autres. Donc c'est un hommage. On s'associe aux Français et aux gens d'ailleurs à l'international. Cette cathédrale était très importante pour les Parisiens, pour les Français, pour les gens dans le monde entier. On a des témoignages quotidiens qui arrivent, on reçoit énormément d'appels tous les jours, de gens qui veulent savoir comment la cathédrale va et qui s'y intéressent, d'autant plus que c'est le premier anniversaire. Donc, vous voyez, on envoie un message fort pour dire Notre-Dame est toujours vivante, Notre-Dame est toujours debout, et en plus, on vous le rappelle, et en plus, on applaudit, comme tout le monde, toutes ces personnes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes.
Vous recevez
Pardon, Elisabeth Assayag, pardon, je vous ai coupé.
Vous recevez des témoignages de fidèles, de personnes qui ont envie d'aider à leur manière en ce moment aussi à Notre-Dame.
Vous savez, c'était dès le soir de l'incendie, on a reçu énormément de, d'appels, de messages, de mails, de SMS, tous les moyens de communication possibles et imaginables, de gens qui proposaient d'évacuer les choses à l'intérieur, des gens qui proposaient de faire le ménage, des gens qui proposaient de faire à manger. Voilà, ces messages sont arrivés, ils continuent d'arriver, ils sont un peu moins nombreux parce que c'est vrai que on est dans un peu, on pense un peu à autre chose en ce moment, ce qui est bien normal. Mais c'est vrai que ces messages abondent depuis un an du monde entier et c'est vrai que c'est assez incroyable.
Eh bien, merci beaucoup. Merci André Finot, directeur de la communication de la cathédrale Notre-Dame de Paris, d'avoir été avec nous et on écoutera attentivement ce bourdon de Notre-Dame qui, comme l'a dit Mathieu Béliard ce matin, est un fa dièse pour ceux qui connaissent un peu la musique. Oui. Merci Elisabeth.
Merci Pierre de Villeneuve. On vous retrouve demain à partir de midi. Et c'est le moment de la météo avec vous Anissa Haddadi. Le temps devient instable dans le sud-ouest.
Oui, effectivement, Elisabeth, sur les Pyrénées, sur la façade atlantique et sur le Pays Basque cet après-midi, les averses arrivent. Des averses qui, d'ailleurs, sur les Pyrénées atlantiques, pourront prendre un caractère orageux. Donc, on risque d'entendre quelques coups de tonnerre cet après-midi dans le secteur sur l'Hérault et les Pyrénées orientales. Là, ce sont les entrées maritimes de ce matin qui restent encore un petit peu tenaces cet après-midi et qui vont surtout masquer le soleil avec même quelques gouttes à prévoir. Et puis, toujours dans le sud, dans ce secteur, le vent d'autant qui se renforce cet après-midi avec des rafales jusqu'à 100 km/h. Partout ailleurs, c'est encore du très grand beau temps. Le soleil brille dans un ciel sans nuages. Ça va se compliquer dès demain avec les nuages et la pluie qui arrive par l'ouest. Les températures cet après-midi, les températures cet après-midi, 17 à 23 au nord de la Loire, nous aurons 19 à Lille et 22 à Paris, 21 à 25 partout ailleurs, 24 à La Rochelle, 25 à Clermont-Ferrand et jusqu'à 27 à Mont-de-Marsan.
On en profite encore un peu cet après-midi alors. Merci Anissa. Europe 1.